Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Les trois États baltes accueillent le pape François ces samedi et dimanche, 25 ans après la visite historique de Jean-Paul II. Pour les Baltes, cette visite est autant religieuse que politique. Dans les trois pays, les réalités catholiques sont très différentes. En Lettonie, c'est dans la région de Latgalé que l'on trouve les catholiques, région qui est aussi l'une des plus pauvres du pays. Et là-bas, on espère que la venue du pape donnera un coup de projecteur bénéfique. C'est un reportage de Marielle Vituro.
Dans la filiale de Leax, société suédoise de production de pièces métalliques, les machines-outils tournent 24 heures sur 24. L'usine est installée à l'entrée de Rezekne, l'une des grandes villes de Latgalé. Gins Yatchox, son directeur, est optimiste pour le futur. D'ici 2 ans, la société va s'agrandir et employer 30 personnes de plus. Le chiffre d'affaires devrait passer de 20 à 30 millions d'euros. L'avenir ne l'inquiète pas.
Dans la région, de nombreuses industries très modernes commencent à s'installer. Nous aussi, nous essayons le plus possible de nous fournir auprès de fabricants locaux pour nos besoins. Cela tire l'économie vers le haut.
Après la grave crise économique et financière de 2008, l'économie est repartie dans la région. Mais trop timidement encore, estime Yanis Keish, professeur de français et sous-directeur d'école.
Comme il n'y a pas beaucoup de travail, les gens quittent la région et surtout ils quittent aussi notre pays. Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les structures de l'État, comme bon, les écoles, la mairie, etc. Mais disons, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises.
À Rezekne, plus de 25 000 habitants, le taux de chômage reste encore très important, à 15%. Il est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Iveta Ratinica a grandi à Rezekne. Elle s'y présente sur une liste libérale pour les élections législatives.
Le début de la ville moderne a été beaucoup lié aux entreprises soviétiques. Elles étaient nombreuses, mais en 1990, à l'indépendance, elles ont fait faillite et le chômage de masse s'est installé. L'État n'a pas su réutiliser les capacités des employés licenciés. Et le chômage s'est transformé en chômage de longue durée. Ces personnes ne travailleront plus et ne créeront pas leur propre activité.
Comme le chef d'entreprise, le curé d'Aglona, la plus grande paroisse catholique de la région et lieu de pèlerinage, espère que la venue du pape pourra avoir un effet positif, notamment sur le tourisme, en mettant la région sous les feux de la rampe. Daumans Abritskis.
Je crois que la venue du pape ici, il y aura des pèlerins de différents pays. J'espère qu'ils vont découvrir ce lieu et vont aussi revenir ici. Nous pourrons maintenant accueillir des gens, des groupes, passer la nuit.
La municipalité de Rezekne mise elle aussi sur le développement des infrastructures sportives et culturelles pour faire vivre la ville et retenir les habitants. Une piscine à ciel ouvert a ouvert tout récemment. Un stade et une patinoire vont bientôt sortir de terre. Mais l'emblème reste la grande salle de concert très moderne inaugurée en 2013. L'investissement de 20 millions d'euros réalisé avec l'aide de l'Union européenne a longtemps été l'objet de controverses. Mais Diana Zirnina, sa directrice, est optimiste.
Cette salle de concert est en train de changer les stéréotypes sur la région. Souvent, on entend des blagues sur notre mode de vie, que nous sommes pauvres, mais on s'amuse à préciser que chez nous, on a déjà l'électricité. Avec cette salle, les Lettons peuvent maintenant découvrir leur propre pays. C'est si facile d'aller à Rome, à Paris, depuis la capitale. Mais pour Rezekne, il faut 3h30 en voiture. Je suis très heureuse de constater que lorsque nous avons des concerts de musique classique, un public fidèle vient de Riga.
La rénovation de la synagogue en bois peinte tout en vert, avec l'ouverture d'un lieu culturel dans le centre de Rezekne, est l'un des autres succès de la ville, pour Natalia Yupatova de la mairie de Rezekne.
Quand nous avons ouvert la synagogue et offert une programmation culturelle pour attirer les les touristes, tout a commencé à se développer dans et autour du centre historique. Les cafés proposent désormais des plats typiques juifs. Ça a provoqué une réaction en chaîne.
Tout comme Jean-Paul II avait permis aux Européens de découvrir la Latgalie en s'y rendant il y a 25 ans, la visite du pape François pourrait donner un nouvel élan à la région, notamment en rappelant aux candidats aux élections législatives que le monde ne s'arrête pas à 100 km autour de Riga.
La question déchire l'opinion publique en Bosnie-Herzégovine, les mariages mixtes, comprenez, intercommunautaires. Alors que du temps de la Yougoslavie, ces unions étaient perçues comme un symbole de l'unité du pays, elles se font rares désormais. Les nationalistes de tous les camps les stigmatisent même comme un cancer dans le tissu d'une ethnie saine. Simon Rico.
Près de 4 habitants de Bosnie-Herzégovine sur 10 se disent contre les mariages intercommunautaires. C'est ce que nous apprend une étude publiée récemment. Dans le détail, ils sont 55% chez les Serbes orthodoxes, 43% chez les Croates catholiques, 33% chez les Bosniaques musulmans et 12% chez ceux qui se déclarent bosniens, c'est-à-dire qu'ils refusent toute appartenance ethnique et se considèrent comme citoyens de Bosnie-Herzégovine. Au temps de la Yougoslavie, la Bosnie était pourtant la république où l'on se mariait le plus entre nationalités différentes. Ces mariages mixtes étaient acceptés et même encouragés puisqu'ils étaient à l'image de la société multiculturelle et égalitaire qu'entendaient bâtir les autorités socialistes. Ces unions sont désormais devenues si rares qu'elles font l'objet de reportages internationaux. Selon le psychologue Serjan Puhalo, connu pour son engagement antinationaliste, c'est l'État qui encourage les divisions, l'incompréhension, l'intolérance et cela se répercute sur la perception des citoyens de Bosnie-Herzégovine sur de nombreux sujets dont les mariages mixtes. Comme le souligne sa collègue sociologue Nada Perišić, beaucoup des habitants de Bosnie-Herzégovine considère que les mariages mixtes sont la cause principale des conflits des années 90 dans l'ancienne Yougoslavie. Pour éviter que la guerre ne se reproduise, chacun devrait donc, selon eux, se marier à une personne de sa communauté. Aujourd'hui, les enfants issus de ces unions mixtes sont mal perçus. N'étant ni bosniaques, ni serbes, ni croates, ils ne bénéficient pas des mêmes droits fondamentaux que les membres de ces peuples dits constitutifs et subissent diverses vexations, se faisant même parfois traiter de bâtards. Les plus optimistes préfèrent toutefois regarder le verre à moitié plein et se dire qu'un tiers de la population est favorable au mariage mixte, ce qui n'est déjà pas si mal dans un pays gangréné par les divisions communautaires depuis plus d'un quart de siècle.
Les dossiers européens à la une de Courrier International cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Ingrid Terwatt. Bonjour Ingrid.
Bonjour Laurent.
Revue de détail donc des articles sélectionnés dans la presse européenne. Avec tout d'abord le traitement des débordements extrémistes de Chemnitz en Allemagne.
Oui, la presse allemande traite évidemment énormément le sujet. Alors je vais vous rappeler quand même brièvement ce qui s'est passé. Le 26 août dernier, un Allemand de 35 ans est mort à la suite d'une rixe qui impliquait des hommes dont on a officiellement dit qu'ils étaient de plusieurs nationalités. Et très rapidement après, des gens sont descendus dans la rue et se sont mis à pourchasser les individus en fonction de leur couleur de peau ou de leurs origines ethniques. Ces chasses à l'étranger se sont poursuivies et quelques jours après, le 1er septembre, 8000 personnes ont répondu à l'appel de l'extrême droite et sont descendues dans la rue en scandant des slogans racistes et souvent fascistes, souvent nazis. Face à eux, il n'y avait que 3000 contre-manifestants. Ces événements ont été mal gérés par le ministre de l'Intérieur et ont fini par déclencher une crise politique très importante dans la coalition. Alors, pour faire simple, ce qui se passe en Allemagne, c'est que Angela Merkel est critiquée pour sa politique d'accueil des réfugiés. Et pendant ce temps-là, l'extrême droite monte, monte, monte.
Mais Ingrid, est-ce que cette situation est vraiment nouvelle ?
Oui et non. Alors, il y a une actualité qui est forte là dans cette ville, à Chemnitz, mais c'est le résultat d'une longue évolution. Et on le voit très bien à travers le récit d'un certain Demiao, qui est un ouvrier venu du Mozambique et qui s'est installé dans la région de Chemnitz précisément il y a 30 ans. C'est l'hebdomadaire Der Spiegel qui raconte son parcours. Dans cette région de l'ex-RDA où tout le monde vivait dans une assez bonne entente parce que avant il y avait une discrimination institutionnelle qui existait, mais le racisme ordinaire, lui, il était très sévèrement réprimé. Les choses ont commencé à changer de façon assez insidieuse au moment de la chute du mur en 89, puis de la réunification. Petit à petit, la situation s'est améliorée à nouveau, selon le Spiegel. Mais, je cite, « on ne peut pas dire que les choses aillent bien. Quand Demiao va au café, parfois, on ne le sert même pas. Mmh. » Et l'hebdomadaire fait la liste de toutes ces discriminations qui s'accumulent et que subit lui et sa famille. L'hebdomadaire raconte, Demiao a surtout peur pour ses enfants. Pour autant, sa famille et lui ne comptent absolument pas partir, heureusement, parce que, je cite, « si tous les gens bien s'en vont, la ville sera bientôt une zone de non-droit. » On en est là.
Alors, pas très loin de là, toujours à l'est, en Slovénie plus précisément, c'est un tout autre sujet qui agite la presse, la nomination d'un nouveau Premier ministre.
Oui, un nouveau Premier ministre un petit peu surprenant, ça fait couler beaucoup d'encre en effet. Le quotidien slovène Večer, qui est publié dans une ville qui s'appelle Maribor, dresse le portrait de cet homme, Marjan Šarec, qui a 40 ans et qui est comédien et imitateur de profession. Il est donc devenu Premier ministre, un petit peu contre toute attente. En tout cas, la surprise générale. Le journal explique que ce monsieur a survolé la politique slovène tel un météore lors de la présidentielle de 2017, qu'il a quand même perdu, et finalement il a remporté les législatives. Voilà, ce Marjan Šarec n'était quand même pas complètement un inconnu puisqu'il était maire d'une ville, la ville de Kamnik, qui compte 13 000 habitants et qui est à 23 km de Ljubljana. Et il était maire depuis 2010, donc ce n'est pas un novice total. Mmh. Et puis, alors, il est assez surprenant parce qu'il s'est imposé en critiquant le populisme du président Pahor. Mais finalement, au-delà de cet individu, c'est un petit peu ce côté météore incroyable, c'est, selon le journal, le besoin de changement politique du jour au lendemain, si propre à la mentalité slovène, qui explique sa réussite. Sa jeunesse et l'appartenance à une génération peu soucieuse des étiquettes idéologiques constituent ses principaux atouts. Et franchement, Marjan Šarec a beau avoir un langage simple et une carrière de comique, il faut quand même dire qu'il a su ratisser large et agglomérer autour de lui des gens de gauche comme de droite. Et donc, on ne peut pas faire comme ses opposants et juste dire que c'est un guignol. C'est un personnage à suivre.
Alors pour conclure, on va rester à l'Est, mais en Pologne, cette fois-ci avec un hôtel plutôt très particulier.
Oui, un hôtel très très particulier, c'est selon le grand quotidien Gazeta Wyborcza, l'hôtel le plus cher de Varsovie. Mais alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ce fameux hôtel est situé rue Kolska, et apparemment tout le monde le connaît à Varsovie. Il compte 130 chambres et reçoit près de 25 000 pensionnaires par an. Une nuit vous coûtera 70 euros. Mmh. Mais attention, on ne peut pas rentrer comme ça ou réserver comme ça. Non, non, non. Il y a une condition sine qua non très importante. Il faut avoir au moins 0,5 g d'alcool dans le sang pour pouvoir prétendre y passer la nuit. Mmh. Grosso modo, c'est une grande cellule de dégrisement. On vous prendra vos effets personnels et vous ne les récupérez que quand votre taux d'alcool sera retombé à zéro. Alors, il y a un public assez varié, mais il y a aussi beaucoup de sans-abri et de chômeurs qui fréquentent cet établissement. Alors, on ne leur demande pas de payer 70 euros, on leur fait crédit, et puis le lendemain, on efface leur ardoise. Et ça recommence.
Merci beaucoup Ingrid Terwa. Des articles à lire dans Courrier International de cette semaine, dont la une est consacrée à l'Amazonie, labo du futur. À bientôt Ingrid.
À bientôt Laurent.
Rendez l'environnement joli et ses riverains le respecteront. C'est à partir de ce constat qu'à Rotterdam, aux Pays-Bas, la ville a décidé de fleurir ses rues, mais pas avec n'importe quelle fleur, Antoine Moutot.
Des fleurs en plastique, du gazon artificiel. Depuis plusieurs mois, certaines rues du Tarveveik semblent s'être métamorphosées en décors de parcs d'attractions pour jeunes enfants. Autour des conteneurs semi-enterrés du quartier, la municipalité de Rotterdam a décidé d'installer des éléments de nature factice. Elle veut ainsi dissuader les Rotterdamois de s'adonner aux dépôts sauvages d'ordures. D'après la mairie, jusque-là, par paresse, certains riverains préféraient laisser leurs sacs poubelles au pied des conteneurs au lieu de les y déposer directement. Pire encore, plutôt que de les apporter à la déchetterie, ils abandonnaient également à même le sol appareils défectueux et mobilier usagé. Certaines rues ressemblant ainsi à de véritables dépotoirs jusqu'au passage très attendu des éboueurs. Mais grâce aux fleurs artificielles, les riverains semblent déjà avoir perdu leurs mauvaises habitudes. Selon la ville de Rotterdam, après plusieurs semaines seulement, la quantité d'ordures déposées autour des conteneurs a diminué d'environ 85%. Rotterdam s'est en fait inspiré d'un concept de plus en plus en vogue ici aux Pays-Bas. Il s'agit de la théorie récente du nudge, coup de pouce en anglais, et qui désigne le fait de pousser quelqu'un à changer son comportement de manière inconsciente. Pour l'expérience, Rotterdam aurait pu utiliser de véritables fleurs et du vrai gazon, mais elle juge que l'entretien coûterait trop cher. Quoi qu'il en soit, face au succès de l'opération, d'autres villes néerlandaises veulent désormais faire de même.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Bonjour Vincent Théval.
Et bonjour Laurent.
On retrouve aujourd'hui de vieux habitués de cette chronique.
Et oui, les Anglais de Tongue, qu'on a régulièrement croisés sous ce nom ou sous celui d'autres projets et collaborations qui se sont multipliés ces dernières années, signent que la musique est avant tout une aventure humaine pour ce sextet autrefois basé à Londres, mais aujourd'hui éparpillé un peu partout en Europe. Et pour fêter ses 15 ans d'existence, Tongue met aujourd'hui les petits plats dans les grands, d'abord en actant le retour dans ses rangs de Sam Genders, fondateur du groupe qu'il avait quitté il y a quelques années, et puis surtout en publiant un sixième album très réussi, Songs You Make at Night, soit une dizaine de chansons qui évoquent cet état flottant entre le sommeil et l'éveil, et porte la signature du groupe, ce mélange si singulier entre folk acoustique et musique électronique.
The sunset, do you make the bright stars flee? Old crow, time is getting late, I know you've a gift for me. Old bird, I see it in your talons, glittering between the leaves. Swimming in the shallows, you're calling from the deep. And we bide our time, and we shed our skins, and we shake our bones, and we sink like stone, and we crawl through mud till we reach the sky. And we bide our time.
Du sixième album de Tongue, de quoi commencer le week-end en douceur. On se retrouve donc lundi dès 17h40 en temps universel pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe, réalisée et mise en onde par Françoise Grelot.